saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, André Duny, votre serviteur dans la chronique La saine cause. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'hésitation à faire la chronique parce que les sujets s'accumulent, ça fume noir sur Rouen avec Lubrizol, donc j'en fais une émission, mais ça craint côté nucléaire, avec les 4000 réacteurs en fin de course de la planète et ceux qui ont déjà sauté et ceux qui le risquent. Et ça, c'est l'industrie du nucléaire. Et ça, Lubrizol, c'est l'industrie chimique. J'ai essayé de parler d'une autre industrie qu'on pourrait appeler du grand commerce agro-chimique, industriel, commercial, des grandes surfaces avec Europa City, encore 300 hectares à bétonner, alors qu'il en reste presque plus pour nourrir la ville de Paris, etc. etc. Que ce soit l'industrie du béton, que ce soit l'industrie agroalimentaire, que ce soit l'industrie chimique, que ce soit l'industrie nucléaire, on a beaucoup parlé des industries des énergies fossiles, tout converge à nous détruire. Donc il est peut-être temps d'en sortir. Aujourd'hui, voilà, je reprends la fin de la précédente émission, qu'il faut sortir de cette civilisation thermo-industrielle chimique qui ronge et la planète et les humains. Donc là, aujourd'hui, eh ben, on va voir une autre face, en espérant que ça ne vous ennuie pas trop. Hein, dans ce cas, vous m'appelez. On peut faire. J'avais préparé une émission sur le vin. Parce que franchement, pour savoir si on boit du vin bio ou du vin pas bio, combien il y a de sulfites dans le vin, combien de copeaux, combien d'additifs chimiques, eh bien mes amis, j'avais préparé un petit truc marrant sur le vin. Ben, on le fera une autre fois, s'il faut faire un peu plus détendu, mais bon, vous avez beaucoup d'occasions de détente hein, sur cette radio comme sur les autres. Donc là, je voudrais parler de deux, trois sujets. La dématérialisation en gare, dans les services publics, à la préfecture, bref, partout. Hein, sans écran, on ne vit plus. Même si il y a plus de 15 millions de Français qui disent qu'ils veulent pas d'écran, qu'ils en peuvent plus, qu'ils ne savent pas et que ça ne les motive pas. Donc il y a 1 sur 6, hein, en gros, qui n'est pas du tout motivé, non pas 1 sur 6, 4 fois 15, 60, oui, 1 sur, oui c'est ça, pratiquement 1 sur 6 qui n'en veut pas ou qui se trouve en fracture avec le numérique. Voilà, et je voulais parler également des médicaments. Alors, je vais peut-être commencer par le médicament. Et le but de l'opération, c'est nous convaincre mutuellement, hein, que peut-être il serait temps de non pas converger pour continuer à améliorer ou à réguler ce système au nom d'une transition verte ou d'une transition sociale ou une transition démocratique, mais qu'il faut carrément renverser la table. Voilà, c'est l'émission pour renverser la table que je vous propose. Et on voit bien que plus on se bouge, et plus en face, il résiste. Donc, il faut trouver un moyen, soit de se bouger beaucoup plus nombreux, soit en même temps, comme je l'ai dit à propos d'Europa City, avec le projet Karma, de permaculture, agroforesterie et agriculture bio sur les terres, les 300 hectares des terres au nord-ouest des terres du triangle des Gonesses au nord-ouest de Paris. Bah, il s'agit aujourd'hui de porter l'alternative en même temps qu'on donne son ras-le-bol du système. Et pour avoir ras-le-bol du système, il faut le sentir dans sa chair, c'était le cas des Gilets jaunes, et il faut aussi le sentir dans sa tête, et le comprendre dans sa tête. Parce qu'il ne suffira pas de dégager le système politique pour qu'on ait dégagé le système économique. Hein. Le système politique, ça sera le plus facile. Le système économique, c'est encore une autre paire de manches, Et on ne manque pas d'outils pour dire qu'on pourrait, plus facilement qu'on ne le croit, en venir à bout, réussir à nationaliser et ensuite à régionaliser et même localiser des banques qui permettraient d'avoir un peu de liquidité pour faire ce qu'on a envie de faire dans les patelins, sous démocratie locale. On sait très bien qu'il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent être écrits permettant à un État, nation, de se récupérer, non pas comme font les Anglais, eux, c'est pour faire plus de capitalisme, plus de libéralisme, de faire des traités avec les États-Unis, d'attirer les banques, devenir encore plus des paradis fiscaux que Londres est déjà un gros paradis fiscal. Essayer, non pas ce système-là qui est tirer son épingle du jeu et mieux piquer aux autres leur pognon. Non, pas du tout ça. D'aller dans le cadre de la charte de la Havane et d'aller vers une ONU des peuples, vers un partage plus équitable des ressources de la planète. Et il y a des scénarios qui vont très très bien. On sort par exemple de l'Europe, on dévalue de 500%, les riches perdent tout leur pognon, parce que la dévaluation c'est fait pour ça. Et du coup, on peut rattaquer sur des bases plus saines. Il y a 1000 scénarios qui permettraient de dire, voilà, on nationalise, mais pour nationaliser, c'est difficile. Et ben alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait circuler des rumeurs comme quoi c'est très, très mauvais, la banque machin, mettons le Crédit Apicole. Le Crédit Apicole, c'est très, très mauvais. Il soutient des usines électriques à base de charbon en Turquie ou ailleurs. Donc, on fait s'effondrer le titre et quand il est bien effondré, on le rachète pas cher. Voilà. Il y a 1000 façons pour un État. Le problème, c'est que c'est pas l'État qui va faire ça. C'est le peuple. Si le peuple est massivement mobilisé et impose ce genre de solution, je dis bien imposer. La question n'est plus que celle d'un rapport de force. Vous l'avez assez bien vu ces dernières années avec les gilets jaunes, avec les marches climat, etc. Si on n'impose pas on sera tous en extinction. Si on se rebelle pas, on sera tous en extinction. Comme dit le mouvement Extinction Rébellion. Voilà, donc ça y contribuait modestement que se tient cette petite émission. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques billes pour accroître votre pouvoir de nuisance sur le système et peut-être mobiliser pour les municipales. Il s'agit du Mediator. Ça c'est l'industrie pharmaceutique. Le Mediator, c'est un effroyable médicament qui provoque entre autres de graves troubles cardiaques, qui a handicapé et tué des milliers de personnes, puisque je ne sais pas si on peut parler de milliers, ça va de 1000 à 2500 femmes, pour l'essentiel, qui sont décédées de valvulopathie cardiaque à la suite de la prise de ce médicament, initialement pour le diabète. En réalité, se murmurait que c'était un coupe-faim et donc un très bon moyen de regagner la ligne. Et donc beaucoup de femmes l'ont prise. Il y a plusieurs centaines de milliers de femmes qui ont des valvulopathies qui rendent la marche, notamment les montées d'escalier, extrêmement pénibles. Voilà, on a handicapé des dizaines de milliers de personnes, tuées donc entre 1000 et 2500. Je ne vais pas me retrouver au tribunal. Le chiffre minimal, c'est 1000 et le chiffre maximal, plutôt 2500. C'est ce que dit en tout cas Irène Frachon, la pneumologue qui a... Depuis Brest, vous avez sans doute vu des vidéos. Alors, je le rappelle, il était prescrit comme antidiabétique, mais surtout pris comme coupe-faim pour les personnes en surpoids et remboursé par la Sécu à 70%. Des milliers de pages ont été écrites sur le Mediator depuis que Irène Frachon, donc cette toubib médecin de pneumologue à Brest, à l'hôpital de Brest, a levé le lièvre dans son livre Le Mediator, combien de morts, édition Dialogue 2010. Elle a mené inlassablement ce combat où elle voyait des patientes justement au système cardiaque ruiné par la prise de cette pilule. Et il se tient en ce moment le procès pénal pour tromperie aggravée, escroquerie, blessure et homicide involontaire et trafic d'influence. Voilà. C'est un procès pénal. Au premier rang des accusés, le producteur du Mediator, le laboratoire Servier. C'est un client historique du cabinet d'affaires de Sarkozy qui l'a aidé à monter sa fondation de recherche sans capital et sans but lucratif aux Pays-Bas, fleuron économique du pays, je lis, avec des résultats annuels d'exploitation de plusieurs centaines de millions d'euros. 22 000 salariés. Oui, beaucoup de choses ont été écrites sans doute sur cette affaire, hein, ou emblématique de, voilà, ce que je disais au départ, de notre civilisation, société capitaliste, de la croissance à tout prix, de l'argent roi et de l'oligarchie souveraine. L'argent, on pourrait dire la monnaie reine et l'oligarchie souveraine. Pour qu'il y ait expansion industrielle, premièrement, ben, il faut que la paysannerie soit entièrement liquidée. Donc il faut fabriquer à bas prix des nourritures dégueulasses. Hein, on ne va pas chaque fois se faire une tête de veau avec le veau de la ferme. On va le fabriquer en grande série, le surgeler, le trimballer de grande surface en grande surface dans des caissons et ensuite le dégeler et le faire manger par les gens. Et on fera produire là où le veau est le moins cher, là où l'électricité est la moins chère pour congeler et en voiture Simone. Bon, en principe, on congèle en même temps qu'on débite, donc on va choisir plutôt l'endroit où l'électricité est pas chère, comme en Islande, par exemple. Voilà, en plus, il fait plus froid, donc c'est parfait. Ces millions de tonnes de marchandises mangeables produites aux quatre coins du monde, c'est peu cher à l'unité, et du coup, on en peut se passer d'avoir des bonnes tomates locales, mais produites en petite quantité, et donc au prix, à un prix plus cher. Et donc, les petits producteurs se sont vus ruinés. Et voilà ce que fait le capitalisme. S'ils sont ruinés, ben, ils sont obligés d'aller bosser à l'usine. Et donc, il peut remplir ses usines d'ouvriers et faire tourner la machine thermo-industrielle et électronique, numérique, et chimique, commerciale, et immobilière, etc. Toutes les affaires qui font beaucoup de revenus à ceux qui les possèdent. Donc, la publicité se déchaîne en disant que quand même le must c'est d'avoir un corps de rêve, la taille est extrêmement fine, voilà. Donc les femmes intègrent le modèle et se disent « si je veux séduire et garder mon homme ou en conquérir un, il est naturel que je maigrisse ». Parce que ça ne le fait pas les petites rondeurs, donc campagne de pub à tour de bras. Et donc, oui, la plastique de Zaya Dehar, je ne sais pas si vous connaissez, moi ça ne me dit rien, ben, il paraît que c'est une plastique d'enfer. Donc, ensuite, arrive, quand ces femmes sont à la recherche de quelque chose pour être dans la bonne ligne, arrivent donc les firmes industrielles du Médoc, qui vont, en quelque sorte, se mettre sur le créneau commercial, sur le marché, comme on dit, de ces victimes de la malbouffe industrielle qui elle-même a permis de liquider les paysans, eh bien, sur ce marché de la malbouffe, ces dames qui sont en surpoids vont chercher sur le marché le médicament qui vont leur permettre de maigrir. Et donc, on a une industrie capitaliste qui fait grossir et une industrie capitaliste qui, en quelque sorte, fait maigrir. Voilà comment ça marche. Et donc, le fleuron de cette industrie pharmaceutique, ça a été le Mediator. Son action contre le diabète est faible. Et donc, il a été plus rentable de le vendre comme antidiabétique en falsifiant des études dès les années 73. Donc déjà, à l'intérieur même des responsables de la production et du marketing, il y a une tromperie à l'intérieur du système. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour garder des marges extrêmement concluantes? Bilan des courses, la toxicité du principe actif de ce Mediator était déjà dans un médicament pour faire maigrir qui avait été retiré du marché 30 ou 40 ans plus tôt, marché des États-Unis et marché en France aussi. Donc, du coup, Cette substance active, c'est le norfluramine. Hein, norfluramine. C'est-à-dire, c'est une substance, c'est une amphétamine en quelque sorte, hein, qui est proche de, qui a eu pendant des décennies la réputation de provoquer des troubles pulmonaires et cardiaques. Donc, ce médiator est interdit aux États-Unis, mais nous en France, on a continué de le prescrire. Le laboratoire a fait sa pub auprès des médecins, des médias, et on a vendu du médiator à tour de bras.
Ha ha.
Cette situation, il faut bien qu'on y réfléchisse quand on parle de système. C'est pas seulement l'usine, les usines du groupe Servier. C'est la complicité de pantiers de la bureaucratie de l'État français, inexplicablement tolérante à l'égard d'un médicament sans efficacité thérapeutique, incapable d'analyser les graves risques apparus en termes de cardiotoxicité, gérant avec lenteur les déremboursements de médicaments, comprendre ne déremboursant rien du tout. Voilà. Et ça, c'est ce que je dis là, c'est l'enquête sur le Mediator de l'Inspection Générale des Affaires Sociales de janvier 2011 déjà. Vous voyez, il y a plus de 8 à 9 ans qu'il y a eu cette inspection. Et ces chefs de, qui auraient pu être des chefs d'inculpation des inspecteurs des affaires sociales. Donc, ça permet de comprendre dans quelle société on vit, quoi. Qu'on puisse amener à la mort, en le sachant, des tas de gens, donc industrie de l'aluminium, industrie du tabac, industrie du sucre. Et là, on a en France une multinationale française, ou une petite multinationale française, on peut dire, des laboratoires Servier, qui savent pertinemment qu'ils vont mettre en danger, mais qui pensent qu'ils passeront à travers des gouttes, parce que les gens vivant seuls, ici, c'est très difficile de mettre en évidence les effets d'un médicament. Les gens en prennent des dizaines, ça traîne de partout. Comment voulez-vous attribuer à telle ou telle cause? Ça peut être aussi des causes environnementales, ça peut être des causes génétiques, des causes d'autres pathologies. Il y a tellement de facteurs qui interfèrent que... Et c'est sans l'obstination de cette cardiologue, on n'aurait rien trouvé, si ce n'est que les gens seraient allés au cimetière sans trop savoir pourquoi. Ils avaient une valvulopathie cardiaque. Donc, Servier, vous savez ce qu'il fait? Il corrompt. Pour que des pans entiers de la société soient aussi tolérants au Mediator, alors qu'on a interdit aux États-Unis, qu'il y a des alertes qui commencent à arriver, ben, Servier arrose 60 000 euros par an à un membre de la Cour des comptes. Vous entendez bien? La Cour des comptes. 60 000 euros par an pour qu'il se la ferme. 150 000 euros par an à un haut dirigeant d'une agence du médicament. Je veux dire qu'il les autorise à être mis sur le marché. Ben franchement, 150 000 par an, j'avoue que ça laisse réfléchir. Si vous êtes un médecin et que, bon, vous quittez vos 10 ou 12 000 par mois pour vous gagner 150 000 par an sans faire trop de choses, si ce n'est signer des autorisations, ça demande réflexion. Il faut dire qu'avec des sommes pareilles, hein, on a acheté des tas de députés pour voter que le tabac était sans conséquence sur la santé. Et qu'on continue de penser que les pesticides ne produisent pas de cancer. Hein, juste quelques lymphomes pour certains pesticides comme le Roundup. Eh bien, voilà, donc on s'explique certains silences troublants des instances officielles chargées de veiller sur la mise sur le marché de nos médicaments. C'est des instances d'État. C'est des instances du ministère de la Santé. Silence. Silence, on corrompt. On donne du pognon aux gens les mieux placés pour qu'ils soient en grande mansuétude à l'égard des laboratoires Servier, producteurs du Mediator. Chez les politiques, eh ben, seuls une ex-sénatrice RPR s'est inquiétée pour avoir tripatouillé un rapport sénatorial au profit de Servier. Voilà. C'est pas elle qui a tripatouillé. Hein. Elle a vu qu'il y avait du tripatouillage. Ça l'a inquiétée. Elle l'a dit, mais silence radio. Donc... ça craint, quoi. Et tout ce système d'influence mutuelle, est-ce qu'il est diffus et plus large encore que cette corruption directe, hein, des plus hauts fonctionnaires, ou est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des cadeaux empoisonnés pour les autres médecins hospitaliers. Le docteur Frachon, a été bien seul à porter la vérité. Elle fut témoin de la résistance stupéfiante, dit-elle, du corps médical. Là aussi, comment se fait-il qu'un corps médical soit pas plus critique à l'égard des instances, des laboratoires ? Eh bien, il faut dire que ce qui a été pour elle un véritable séisme dans sa vie, j'ai été lâchée avec ces pauvres gens, elle a été lâchée par ses collègues. Si elle ne s'était pas obstinée, l'affaire était cuite, c'est-à-dire repartait dans le brouillard. Et moi, je sais qu'on peut risquer quelques hypothèses. Premièrement, le corps médical, très dévoué dans les hôpitaux et gagnant, par exemple. Dernièrement, j'ai interrogé un chirurgien qui m'a opéré, il m'a dit qu'il ne faisait pas plus que 6 000, alors que dans le privé, le même ferait 15 ou 20 000. La moyenne des salaires d'un médecin de ville classique, c'est 7 à 8 000 par mois. Ce qui ne veut pas dire qu'en Ardèche, il doit faire 40 km pour aller voir un patient, il ne fait pas que 3 ou 4 000. Par contre, sur la Côte d'Azur, où il va passer les mémés en série, il va en faire 15 000. C'est une moyenne, il faut bien voir. Mais quand même, la moyenne des médecins spécialistes, c'est quand même entre 10 et 15 000. Les anesthésistes, tout le monde le dit, c'est entre 20 et 30 000 par mois. Les radiologues, 25 à 30 000 par mois. Donc tous ces chiffres sont vérifiables. Vous tapez INSEE, vous allez voir salaire, revenus. Donc ça, je parle des salaires. Pour les revenus, c'est encore autre chose. Quand vous avez 30 000 par mois, vous ne bouffez pas pour 30 000 par mois de robe ou de conso. Qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez des actions chez Total ou ailleurs qui vous rapportent énormément d'argent. Ou vous faites comme mon copain Cahuzac, qui avait une petite clinique chirurgicale, vous les mettez dans un paradis fiscal pour ne pas payer d'impôts. Donc il y a quand même chez la catégorie médecins, tout un groupe de jeunes médecins généralistes dévoués, tout un groupe de jeunes chirurgiens, j'en ai rencontré, dévoués à l'hôpital public et gagnant, c'est pas une misère 6 000, mais une misère par rapport à leurs collègues du privé ou à leurs collègues, opérant dans d'autres pays. Les autres, ils sont quand même bien attachés au pognon, parce que moi, j'ai été infirmier militaire à la fin de ma vie, après avoir été chasseur de chars au 403e char de combat de Mourmelon, deuxième classe, mis là parce que, je gênais étant déjà militant, tout jeune. Alors que j'étais nommé professeur à l'école normale Saint-Denis La Réunion, est arrivé un arrêté du ministre de l'époque, Debré, pour dire non, celui-là, on va le calmer en le mettant dans un régiment de chars. Prof de philo dans un régiment de chars, à graisser des chars, à manœuvrer, à faire 40-50 km à pied sous la pluie, ça calme, ça effectivement, j'atteste que ça calme. Plutôt que d'aller faire 10 heures de cours devant des élèves maîtres dans une école normale pour terminer une thèse ou une agrégation. Oui. Ça, c'est sûr que ça m'a calmé un moment, juste un moment. Et après, ça m'a révolté deux fois plus. Et là, le coup était mal gagné, je pense. Et donc, le labo a craché, à ce jour, 114 millions d'euros pour offrir une indemnisation dérisoire afin que les victimes, par milliers, on l'a dit, pour pas dire par centaines de milliers, lâchent l'affaire et renoncent à poursuivre Servier, l'entreprise en question, au tribunal. Parce que là, ça peut être plus grave pour lui. Voilà. Donc, 114 millions d'euros déjà. Preuve que les bénéfices sont confortables, puisqu'il peut le faire. Comme l'immoralité des propriétaires est sans limite, les voilà qui demandent, vous rendez compte, les propriétaires, c'est-à-dire les gros actionnaires, qui dirigent donc de loin l'usine Servier, productrice du Mediator et de tas d'autres médicaments, il demande le remboursement à l'État suite à diverses décisions administratives évaluant qui ont évalué la responsabilité du laboratoire à seulement 30%. Non mais, on croit halluciner de tant de gentillesse, de bienveillance de l'État à l'égard d'une société criminelle. Vous vous rendez compte ? faut que je vous donne la référence, un médiateur Servier demande à l'État le remboursement des indemnités versées aux victimes. Le Monde du 11 septembre. Vous rendez compte, il le savait. Il l'a fabriqué en toute conscience de cause et il demande à l'État de rembourser les avances qu'il a faites aux victimes. Non mais, vous voyez ce que c'est que le capitalisme ? Ils sont prêts à tuer la planète, à aller jusqu'au bout, comme dit le copain Ruffin dans son Fakir. Ils arracheront le dernier arbre, ils vont polluer la dernière rivière, ils vont tuer le dernier ours pour continuer à faire de l'argent, même si l'argent ne se mange pas. C'est hallucinant. Eh bien, ils demandent remboursement à l'État. Bon, qu'est-ce qui surnage de toute cette fange ? Eh bien, d'abord le fait que cela puisse être exposé, reconnu et faire l'objet de procès au pénal. Ça, on voit qu'on est quand même dans une justice qui essaye de s'exercer. On n'est pas dans une dictature qui aurait fait mourir dans un accident de voiture avec un gros 4x4, comme ça se fait en Russie, au Brésil ou ailleurs, l'opposante. On l'aurait liquidée en la dissimulant sous forme d'un accident. Ou alors elle se serait noyée en nageant au large de Brest. Enfin, on aurait trouvé un moyen extrêmement discret pour dire « Tiens, elle est morte. » Oh, mais c'est un pur accident individuel. Ou alors elle s'est suicidée. On l'aurait retrouvée après une petite période de coup de mou, avec un pétard dans la main et un gros trou dans la bouche. Et on aurait dit « Bah, elle s'en est tirée une parce qu'elle ne pouvait plus supporter la bataille, sauf que peut-être que quelqu'un lui aurait tenu la main. » Enfin, vous voyez, ça se passe dans les dictatures. Nous ne sommes pas en dictature. Nous sommes seulement en dictature des finances, de l'industrie, et il y a encore en France un État, une justice, une santé, une sécurité sociale qui fonctionnent et qui peuvent quand même avec beaucoup de retard, beaucoup de mansuétude, juger des saloperies pareilles. Merci à eux. Donc, Sirène Frachon, c'est parce qu'elle a pu mener ce combat, c'est parce qu'elle n'était pas dans un laboratoire privé. Sinon, ils l'auraient virée vite fait. Puis elle n'aurait jamais retrouvé de boulot. Hein. Je vous rappelle que le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Hein. Je vous rappelle que moi-même, j'ai reçu quelques coups sur la tête à la suite des missions que je faisais à Valence. C'est toujours celui qui dénonce ou celle qui dénonce les scandales sur qui retombe l'opprobre dans un premier temps, du moins. Rappelez-vous, si on veut regarder sur le terrain football, ce fameux joueur de Lens, il dit, il y a tapis, il a mis de l'argent dans le jardin pour acheter des joueurs de mon équipe. Bah, ce mec-là, il n'a jamais plus rejoué. Si, il a joué dans une sous-équipe de 3e catégorie en Corse. Donc, loin des bons salaires qu'il peut avoir en première division. Vous voyez, vous souvenez ce fameux footballeur qui a dénoncé tapis, l'industriel qui rachetait les usines à 1 euro, les revendait des millions. Eh bien, ce tapis-là, un escroc de première classe... Pardon, je ne dis pas que tapis est un escroc. Je dis qu'il est probablement susceptible d'être qualifié avec le fait que il ait été condamné à rembourser à l'État 400 millions d'euros. D'un tribunal arbitral, il aurait acheté un des juges. Donc, on est bien là avec cette histoire d'Irène Frachon dans un système public, l'hôpital public où elle travaillait. Donc dévouée, je répète, hein, dans cet hôpital public, quand je suis allé à Chambéry, j'ai demandé salaire, hein, on était à 6 000 par mois, moins qu'un médecin de campagne. Hein. Donc ce sont des gens dévoués. Mais surtout, on ne peut pas les chasser parce qu'ils chassent les tueurs en série. On ne peut pas les chasser parce qu'ils ont le statut du fonctionnaire. Voilà, moi c'est pareil, j'ai pu dire des choses en tant que formateur de l'IFM de Lyon parce que j'étais dans le statut du fonctionnaire. À moins de violer des élèves mineurs, à moins de faire des saloperies sans nom, vous êtes en stabilité dans votre poste. Personne ne peut vous atteindre. Il faut des scandales gigantesques pour vous faire virer. Eh bien, c'est comme ça qu'elle a pu tenir le coup parce que, même si sa hiérarchie ne la soutenait pas, elle ne risquait rien du point de vue de son poste pour faire vivre sa famille. Voilà. Eh bien, chers amis, qu'est-ce qu'il nous reste à conclure de tout ça ? Qu'il faut s'intéresser à donner un nouveau statut, étendre les services publics et peut-être même aller à réfléchir comment, par plusieurs moyens, soit les nationalisations, soit les municipalisations au niveau municipal, soit, ça c'est un courant marxisant très intéressant qui dit qu'il faut étendre la sécurité sociale à toutes les entreprises. En clair, faut piquer le pognon des riches, faut cotiser tous ensemble et investir par un système comme la Sécu. La Sécu n'a emprunté 0 euro aux banques pour faire des hôpitaux. Ça coûte des centaines de millions. Eh ben non, on n'a rien emprunté, c'est vos cotisations, mes cotisations, qui ont directement servi à financer le béton, le verre et les appareils qui sont dans un hôpital public moderne. Bon, des fois trop grand, des fois mal conçu, des fois bon. Il y a un peu de gigantisme là-dedans et beaucoup de chirurgie industrielle et tout ça. Bon, d'accord, on est payé à l'opération, on peut aussi faire quelques ronds de ce côté-là. Mais en gros, on a quand même un système, malgré ses imperfections, nettement plus performant que dans les autres pays européens et qu'aux États-Unis. Eh bien, pourquoi on ne ferait pas un système national où la cotisation paierait directement l'investissement dans les usines ? En clair, je ne sais pas, au lieu que telle entreprise ait des actionnaires, les actionnaires, ce serait nous, tous ensemble. Et les riches, bien sûr, mis à contribution très largement. Et ça servirait directement, comme l'argent de la sécurité sociale provenant des cotisations, à investir dans, par exemple, des petites éoliennes municipales, des méthaniseurs municipaux, à faire du carburant vert avec les déchets de délagage de la forêt, à faire encore quelques petits équipements hydroélectriques dans un petit ruisseau en faisant très attention que le poisson puisse circuler, pour faire encore l'alimentation électrique d'un village comme ça se fait dans la vallée de la Roya, où il y a 2-3 villages qui sont équipés de turbines. Hein, je connais bien le coin, et qui distribue l'électricité beaucoup moins cher aux pauvres, tout en les aidant à isoler leur appartement. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.